Radio Kapi. Oh, Kapi. Jocelyne Moussa Opondé à la présentation.
Poursuite du processus électoral après la publication des résultats définitifs de la présidentielle, la CENI annonce entre autres l'inscription des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs depuis hier lundi. Procès sur le meurtre des experts de l'ONU, les audiences se poursuivent au tribunal militaire garnison de Kananga. Docteur Claude Baïziré, chargé des communications à la division provinciale de la santé dans le Sud Kivu, est notre invité, s'exprime sur l'arrestation dans cette province de 4 médecins dans une affaire de médicaments périmés. Bonjour à tous. La CENI dit avoir franchi un cap important avec la publication par la Cour constitutionnelle de résultats définitifs de l'élection présidentielle. Mais le travail doit se poursuivre et son président a annoncé hier lundi devant la presse la poursuite des activités de son institution. Corneille Nangaa parle notamment des contentieux de législatives nationales et provinciales qui vont se poursuivre jusqu'au 23 mars 2019. La prestation de serment du nouveau président élu de la RDC conformément au calendrier du protocole d'État et de l'inscription des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 24 provinces qui a démarré hier lundi au 21 janvier. Le président de la CENI énumère ici le reste des activités de la commission électorale. Ses propos sont recueillis par Franck Chimanga.
L'ouverture et l'installation des assemblées provinciales dans les 24 provinces, c'est 24 janvier et le 26 janvier pour l'Assemblée nationale. Cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux du 28 janvier au 11 février 2019 à travers ces différentes phases. Quelles sont les phases? La présélection dans les chefs-lieux de territoire, sélection aux chefs-lieux de province et la cooptation dans l'Assemblée provinciale. Cette activité est conduite conformément à la loi par la Commission électorale nationale indépendante. Il est à noter que l'élection des sénateurs ainsi que celle des gouverneurs et vice-gouverneurs est une combinaison de contraintes et de délais, tant opérationnels que légaux. C'est pour cela que les dates du 6 et 18 mars 2019 restent maintenues. En outre, il est important de rappeler que dans les provinces du Nord Kivu et de Maindom, les élections des sénateurs, des gouverneurs, vice-gouverneurs, ainsi que le bureau définitif des assemblées provinciales n'interviendront qu'après l'organisation des scrutins directs des députés nationaux et provinciaux dans les circonscriptions de Boutembo, Beni et Beniville et Yumbi.
À Lubumbashi, Justicia ASBL, une organisation de promotion et de protection des droits de l'homme, appelle les cours des tribunaux qui traitent les contentieux électoraux de procéder au comptage manuel des voix des électeurs au niveau des élections législatives. La finalité étant, à en croire cette organisation, que la vérité des urnes puisse triompher. Dans un communiqué publié hier lundi à Lubumbashi, Jonas Mulumba, président ad intérim de Justicia, indique que les juges doivent préserver un climat de paix et éviter que la RDC ne sombre dans un chaos au poste électoral. Jonas Mulumba le dit à Colin Juma Musombo.
Il y a des frustrations aussi par rapport à l'élection législative nationale tout comme provinciale. Et donc, toutes ces frustrations qui sont coulées en forme de contentieux devraient aussi trouver des solutions. Et ces solutions devraient aller dans le sens de la vérité des urnes. Si un candidat député de la ville de Lubumbashi, député provincial, qui se dit frustré par le fait qu'il doit avoir été élu, mais que sur la liste il ne figure pas, il a saisi la cour d'appel et il dispose, n'est-ce pas, des PV remis à travers ses témoins. Mais qu'est-ce qui empêcherait à ce juge qui a été saisi de procéder au recomptage de bulletins de vote en sorte que tout le monde soit éclairé que tel candidat n'a pas été élu? La Cour constitutionnelle a tranché par rapport à l'élection présidentielle. Nous nous inclinons par rapport à cette décision, surtout qu'elle est irrévocable. Nous, à notre niveau justicia, nous pensons que seul le recomptage manuel des bulletins de vote garantirait la fiabilité, n'est-ce pas, des élections du 30 décembre 2018.
Ici à Kinshasa, le meeting de la coalition Lamuka n'a pas eu lieu comme prévu hier lundi au siège du MLC. Selon certains cadres de cette plateforme rencontrés sur le lieu hier après-midi, la manifestation a été empêchée par la police. Le podium déjà apprêté a été emporté vers une destination inconnue par les forces de l'ordre. Jean-Désiré Kanyama et Dieu merci, Dirk Assine ce reportage.
Rendez-vous raté ce lundi entre les membres de la coalition Lamuka, venus au siège du MLC sur l'avenue de l'enseignement à Kinshasa, et leur leader Martin Fayou. Sans évoquer les raisons, les éléments de la police sont arrivés sur le lieu et ont dispersé tout le monde. Michel Mangala, vice-président interfédéral de la jeunesse du MLC.
Le président Martin Fayou voulait s'adresser avec la population congolaise. Mais on a été surpris voir que la police nous a empêchés de communier avec le fils du pays.
La coalition Lamuka dénonce aussi l'arrestation de certains de ses cadres trouvés sur place. Elisabeth Ilito, membre de la cellule de communication de Lamuka.
Nous sommes empêchés par le corps militaire, par la police. Ils ont même introduit le siège du MLC, le podium et tout. Il a emporté, il a arrêté les gens qui travaillaient.
Beaucoup de membres de cette coalition, en majorité des jeunes, sont restés jusque tard sur le lieu, attendant envers l'arrivée de Martin Fayou. Ils continuent à exiger la vérité des urnes.
Signalons que le directeur de publication adjoint d'actualité.cd a été brutalisé par la police au siège du MLC alors qu'il faisait son travail de journaliste. C'est en tout cas ce que dénonce l'association des médias d'information en ligne en RDC. Selon la même source, Stanis Boujakera a été blessé à la main droite et son téléphone qui lui sert d'outil de travail a été endommagé après qu'un policier l'a jeté par terre. Radio Capi n'a pas réussi à voir la réaction de la police en rapport avec ce meeting empêché et les traitements infligés aux journalistes. Liste de actualité.cd. Le procès sur le meurtre des experts de l'ONU se poursuit devant les tribunaux militaires garnison de Kananga. Au cours de l'audience d'hier lundi, Jean Bosco Mukanda, le principal témoin devenu suspect dans cette affaire, est revenu une nouvelle fois sur ses précédentes déclarations au sujet de son séjour à Kananga quelques jours avant l'exécution de Zaïda Catalane et Mike Sharp. Compte rendu d'audience avec vous, Joël Bofengo.
Depuis le début du mois de décembre, Jean Bosco Mukanda a changé son récit initial sur les jours qui ont précédé la mort des experts de l'ONU, alors qu'il avait affirmé jusque-là qu'il se trouvait à Kananga le jour précédant l'exécution de Zaïda Catalane et Mike Sharp. Mukanda s'est rétracté. Il assurait n'avoir pas séjourné dans cette ville la semaine précédant le meurtre, soutenant avoir été plutôt dans son village, d'où il est parti le 12 mars 2017 pour se rendre à Bunkonde. Le témoin s'était même justifié, affirmant que c'était un avocat qui lui avait conseillé de mentir sur ses prétendus séjours à Kananga. Nouveau rebondissement au cours de l'audience de ce lundi. Jean Bosco Mukanda affirme à nouveau qu'il était effectivement à Kananga pendant les 5 jours qui ont précédé l'exécution des experts de l'ONU. C'est le 12 mars 2017 qu'il a quitté la ville pour se rendre à Bunkonde. C'est sur le chemin vers cette mission catholique qu'il s'arrête à Moyomusuila, où, dit-il, il trouve la nouvelle de l'exécution de Zaïda Catalane et Michael Sharp. Les raisons de ce nouveau volte-face sont peut-être à rechercher au cours de l'audience du 20 décembre dernier. Ces jours-là, pressé par le ministère public de s'expliquer sur son changement de récit, le témoin avait exigé le huis clos. Depuis ce huis clos, il est revenu sur son récit initial.
Au Nord Kivu, l'évêque de Butembo Beni prend des nouvelles décisions pour renforcer les mesures déjà prises dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ces mesures sont relatives aux funérailles chrétiennes sécurisées et les services pastoraux aux malades en cette période de l'épidémie à virus Ebola. Christian Mapenda nous donne des détails.
Dans un communiqué pastoral rendu public le 17 janvier dernier, l'évêque de Butembo Beni instruit les prêtres, les religieuses et religieuses, les agents pastoraux et les fidèles de son diocèse que toutes les célébrations des funérailles dans ce diocèse s'effectueront désormais sur base d'attestation de prélèvement médical pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de contamination d'Ebola pour la communauté. Ces nouvelles mesures viennent renforcer la campagne Famille sans Ebola lancée en décembre dernier par l'évêque de Butembo Beni. C'est ainsi que même les accompagnateurs des malades qui portent les saints sacrements à domicile ou à l'hôpital doivent s'assurer de l'état des malades, de prendre des dispositions qui s'imposent afin que l'administration du saint sacrement ne soit pas une source de contamination ou de propagation de la maladie à virus Ebola. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek exhorte donc aux agents pastoraux d'aider les familles éprouvées en veillant au principe de la campagne Famille sans Ebola, c'est-à-dire « Je me protège pour protéger mon prochain » et je me protège pour protéger ma communauté. Beni, Christian Mapendano, Radio Capi.
Toujours au sujet de la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola au sud de Kivu, 6 mois après que des cas suspects ont été identifiés à Idui, la sensibilisation se poursuit normalement à la frontière congolo-burundaise de Kamvivira en territoire d'Uvira. Selon le chef de poste du programme national de l'hygiène, tous les services frontaliers sont mobilisés. Ces services décrivent cependant cependant le manque de matériel de qualité pour les lavages de mains, à l'instar du Burundi voisin, et la résistance de voyageurs congolais à se soumettre au dispositif d'hygiène mis en place à la frontière, où le mouvement transfrontalier est estimé à plus de 2000 personnes par jour. Le chef de poste du programme national d'hygiène à la frontière de Kavimvira, Mafrisi Jonas, est au micro de Fissongoma.
La population, je demande à ce qu'elle soit soumise vraiment aux règles d'hygiène que nous demandons, surtout le lavage des mains. Toute personne qui entre et qui sort du pays devrait passer par là et se laver les mains sans pour autant qu'on l'oblige ou bien, et avoir la curiosité de lire les affiches et les calicots qui sont installés à la frontière. Ça nous arrangerait bien. Les thermomètres à laser aussi. Dès qu'un agent, un officier demande de prélever la température, il ne serait pas mieux que la population ou bien l'individu fasse beaucoup de résistance. Mais ça serait mieux que ça soit automatique, donc tic-tac. Comme ça, on peut voir comment lutter contre cette meurtrieuse maladie. Les zones se passent par ici et nous leur exposons nos problèmes ici. Mais jusque-là, on n'a rien jusqu'à présent. Mais avec l'OIM, nous sommes sûrs qu'il y aura quelque chose pour ce qui est des dispositifs et de lavage des mains et d'autres installations pour cette maladie.
L'invité.
Le médecin directeur de l'hôpital général de Mwenga et quatre de ses collaborateurs sont en prison à Kamituga depuis 4 jours. Ils ont été arrêtés sur instruction du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamituga dans une affaire de médicaments périmés qu'ils auraient administrés aux malades qui fréquentent l'institution. En réaction, l'ordre des médecins sollicite la libération de ses membres, estimant que la corporation demeure les juges naturels de tout médecin en conflit avec la loi. Pour en parler, nous recevons le chargé de communication à la division provinciale de la santé dans le sud Kivu, docteur Claude Baïziré. S'entretient avec Jean Kassami.
Docteur Claude Baïziré, bonjour.
Oui, bonjour.
La fois passée, nous avons débattu avec vous la situation qui prévaut à l'hôpital général de référence de Mwenga. Vous aviez même dit qu'une délégation était en route pour s'y rendre. Est-ce que la délégation est finalement partie et qu'est-ce qu'elle a pu constater?
Effectivement, la délégation était partie le même jour et même le chef de division provincial de la santé a fait partie de la mission. Et après évaluation, investigation, l'administration de la division provinciale de la santé a pris des mesures conservatoires et jusque-là, l'ordre de médecins aussi est saisi de façon informelle sur la question parce qu'il s'agit d'un problème déontologique. Actuellement, le médecin concerné, donc les agents de santé concernés, ont été suspendus. Il s'agit du médecin chef de zone, du médecin directeur de l'hôpital qui ont été suspendus. Et pour le moment, il y a même des intérimaires qui ont été désignés le temps que la justice poursuive avec le processus normal. Mais en même temps aussi que l'ordre de médecin, une fois saisi officiellement, puisse analyser aussi le volet déontologique, comme je venais de le dire, et voir quelles sont les mesures que l'ordre de médecin pourra prendre aussi en rapport avec cette situation.
Suspendu, oui, mais nous avons aussi appris qu'il serait entre les mains de la justice.
Effectivement, je venais de dire, le temps que la justice poursuive le processus normal, ils sont encore entre les mains de la justice. C'est tout à fait normal, en attendant qu'il y ait donc les enquêtes, les analyses de la situation continuent et le temps qu'on puisse prendre une dernière décision.
Comme vous dites que l'ordre des médecins est saisi ou est informé, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse se tenir à la décision de la justice et que l'ordre des médecins puisse se plier à cette décision-là?
Pour le moment, c'est un peu difficile parce que ce qui est prévu dans la loi, par exemple l'ordre de médecin, pour le médecin, c'est l'ordre qui doit prendre une décision à informer à la justice quoi faire parce que nous avons une ligne directrice, nous avons une déontologie et c'est à l'ordre d'abord des médecins de faire des analyses et donner des propositions soit au procureur, soit à qui de droit au niveau de la justice pour prendre la dernière décision. Donc, de notre côté aussi, au niveau des deux médecins, il y a des actions qui doivent être menées et concomitamment, en collaboration avec la justice, on aura une dernière conclusion.
Et que donc, à ce niveau, monsieur le chargé de communication, on peut dire que la justice aurait usurpé le pouvoir de l'ordre des médecins.
En quelque sorte, je peux dire ça, parce qu'il était question d'abord que la justice informe l'ordre des médecins, et avec l'ordre des médecins, on pourrait prendre des décisions. Mais néanmoins, jusque-là, il n'y a aucune décision que la justice a déjà prise, c'est juste les simples arrestations, mais on est sûr que dans le peut-être 48 heures, on saura qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est prévu pour nos collègues médecins qui ont eu à tremper dans des histoires peut-être d'ordre déontologique. Mais ce qui est vrai, l'ordre des médecins aussi devra avoir un mot à dire dans tout ça.
On se rappellera que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'était l'existence de médicaments périmés. Est-ce que ces médicaments ont été retrouvés? Est-ce qu'il a été constaté par la délégation que réellement ces médicaments avaient été administrés aux malades, bien que périmés?
Effectivement, bon, peut-être administré, c'était difficile de constater qu'on a administré, mais néanmoins on a trouvé quand même quelques médicaments au niveau de la pharmacie de l'hôpital, déjà périmés. Il y a eu quand même des médicaments périmés qui ont été constatés par la délégation qui est arrivée à Mwenga. Et sur base de cela, on était obligé d'ailleurs d'évacuer tous ces médicaments, et il y a déjà un processus pour voir comment les détruire. Mais en même temps, il y a aussi un autre processus de réapprovisionnement et qui doit se faire en urgence. Et les médicaments qu'on doit envoyer, ça doit être des médicaments conformes, donc des médicaments de bonne qualité qu'on doit envoyer rapidement dans cet hôpital pour pallier à tous ces problèmes et éviter à ce que la population de Mwenga ne puisse pas être privée quand même de leur droit d'avoir quand même des médicaments à l'hôpital. Donc au même moment qu'on est tenté de poursuivre avec le processus de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec nos collègues qui sont effectivement arrêtés, et en même temps, on est en train de réfléchir dans la province, il y a déjà un lot de médicaments qu'on doit envoyer déjà pour réapprovisionner l'hôpital de Mwenga en urgence.
Docteur Claude Baizire, Radio Okapi vous dit merci.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.